Examen de fin d'apprentissage 2019. Profil B et E, série 1. Épreuve de compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Texte A, un message sur répondeur. Vous allez entendre le texte deux fois. Maintenant, lisez les fiches. Première écoute.
Vous êtes branché sur la boîte vocale de Rapido Déménagement. Nous sommes en déplacement tout l'après-midi. Merci de nous laisser votre message après le signal sonore. Nous vous rappellerons dès que possible. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, ici Nathalie Chaumont. J'aimerais faire appel à vos services pour mon déménagement du 27 juin. J'habite actuellement au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur à Bussigny et je déménage à Morges dans un appartement situé au cinquième étage. En ce qui concerne les dates, je dois absolument déménager le 27 car je dois nettoyer mon appartement et le remettre le 29 juin. J'ai plusieurs meubles et un piano qui est assez lourd. Quels sont vos tarifs? J'ai entendu dire que vous facturez 315 francs pour le piano. Est-ce exact? J'aimerais que vous vous occupiez aussi de l'emballage des objets fragiles. Combien coûte cette prestation supplémentaire? Merci de me rappeler le plus vite possible au 078 421 76 91. Au revoir et à bientôt.
Complétez les fiches. Seconde écoute.
Vous êtes branché sur la boîte vocale de Rapido Déménagement. Nous sommes en déplacement tout l'après-midi. Merci de nous laisser votre message après le signal sonore. Nous vous rappellerons dès que possible. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, ici Nathalie Chaumont. J'aimerais faire appel à vos services pour mon déménagement du 27 juin. J'habite actuellement au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur à Bussigny et je déménage à Morges dans un appartement situé au cinquième étage. En ce qui concerne les dates, je dois absolument déménager le 27 car je dois nettoyer mon appartement et le remettre le 29 juin. J'ai plusieurs meubles et un piano qui est assez lourd. Quels sont vos tarifs? J'ai entendu dire que vous facturez 315 francs pour le piano. Est-ce exact? J'aimerais que vous vous occupiez aussi de l'emballage des objets fragiles. Combien coûte cette prestation supplémentaire? Merci de me rappeler le plus vite possible au 078 421 76 91. Au revoir et à bientôt.
Complétez les fiches. Texte B, les Panini, un sport d'équipe. Vous allez entendre le texte deux fois. Maintenant, lisez les affirmations. Première écoute.
Lancées en Italie en 1961, les cartes autocollantes Panini ont fait leur apparition au niveau international lors de la Coupe du monde de football de 1970. Depuis, elles reviennent à chaque Coupe d'Europe ainsi qu'à chaque Coupe du monde. Ces petites vignettes connaissent un grand succès non seulement dans les cours d'école, mais aussi parmi les adultes, qui sont très nombreux dans les bourses d'échange. Comme Pierre va nous l'expliquer, la collection des Panini devient un vrai sport d'équipe.
À la base, c'est notre papa qui était fan de foot. Ensuite, c'est devenu un jeu d'échanger les cartes à l'école. Notre famille a tous les livres complets depuis 2002. On ne se fixe pas de budget, mais il faut compter entre 100 et 150 francs pour finir un album. Bien sûr, l'échange des doubles nous permet de faire beaucoup d'économies. La solidarité entre les collectionneurs est phénoménale. Même les moins sportifs s'y mettent. À l'université, certains de mes amis ne suivent pas du tout le foot, mais ils me ramènent des cartes Panini. Et s'il manque quelques vignettes, on peut aussi les commander sur Internet. Lorsqu'on colle la dernière vignette, c'est un moment particulier, car c'est une activité qui nous occupe pendant pas mal de temps. On est satisfait d'avoir entre nos mains un album complet, car un livre à moitié plein, ce n'est pas très intéressant.
Répondez aux affirmations. Seconde écoute.
Lancées en Italie en 1961, les cartes autocollantes Panini ont fait leur apparition au niveau international lors de la Coupe du monde de football de 1970. Depuis, elles reviennent à chaque Coupe d'Europe ainsi qu'à chaque Coupe du monde. Ces petites vignettes connaissent un grand succès non seulement dans les cours d'école, mais aussi parmi les adultes, qui sont très nombreux dans les bourses d'échange. Comme Pierre va nous l'expliquer, la collection des Panini devient un vrai sport d'équipe.
À la base, c'est notre papa qui était fan de foot. Ensuite, c'est devenu un jeu d'échanger les cartes à l'école. Notre famille a tous les livres complets depuis 2002. On ne se fixe pas de budget, mais il faut compter entre 100 et 150 francs pour finir un album. Bien sûr, l'échange des doubles nous permet de faire beaucoup d'économies. La solidarité entre les collectionneurs est phénoménale. Même les moins sportifs s'y mettent. À l'université, certains de mes amis ne suivent pas du tout le foot, mais ils me ramènent des cartes Panini. Et s'il manque quelques vignettes, on peut aussi les commander sur Internet. Lorsqu'on colle la dernière vignette, c'est un moment particulier, car c'est une activité qui nous occupe pendant pas mal de temps. On est satisfait d'avoir entre nos mains un album complet, car un livre à moitié plein, ce n'est pas très intéressant.
Répondez aux affirmations. Texte C, Ripper Café. Vous allez entendre le texte deux fois. Maintenant, lisez les questions. Première écoute.
Madame Thiémard, vous avez eu l'idée d'ouvrir un Ripper Café à La Chaux-de-Fonds. Un Ripper Café, qu'est-ce que c'est ?
C'est un lieu de rencontre où des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui travaillent gratuitement, aident les gens à réparer des objets en mauvais état.
Et comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Le Ripper Café est une initiative de Martine Postma. C'est aux Pays-Bas qu'elle a organisé le tout premier Ripper Café en octobre 2009. Le projet a tout de suite eu du succès. Actuellement, il y a quelques 1500 cafés de ce genre dans le monde. En Europe, en Amérique et même en Asie.
Et en Suisse.
Tout à fait. Il en existe une quinzaine actuellement, ce qui est très encourageant.
Comment expliquez-vous ce succès ?
Il y a plusieurs raisons. La plus importante, à mon avis, les personnes qui se rencontrent dans ces cafés sont conscientes qu'il ne faut pas jeter tout ce qui n'est plus en bon état. Elles produisent donc moins de déchets, ce qui montre un état d'esprit écologique.
Y a-t-il d'autres raisons ?
Oui, il y a aussi le plaisir de passer ensemble un moment de détente. Pendant que les gens attendent, ils discutent, boivent un thé ou dégustent une pâtisserie. Il y a aussi ceux qui n'ont rien apporté, mais qui sont là pour aider les autres à réparer un objet. C'est tellement sympathique.
Mais plus concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?
Les gens apportent des objets en mauvais état pour les faire réparer. Mais comme ils n'ont pas l'habitude de ce genre de travail, ils sont aidés par des experts qui sont heureux de faire profiter les autres de leurs compétences.
Quels objets les gens apportent-ils ?
Par exemple, des vêtements, des aspirateurs, des jouets, de la vaisselle.
Combien d'objets peuvent être vraiment réparés ?
En moyenne, les participants arrivent à réparer près de 2/3 des objets en mauvais état. Même si le succès n'est pas toujours garanti, l'important, c'est d'essayer.
Madame Thiémard, merci pour ces informations.
Répondez aux questions. Seconde écoute.
Madame Thiémard, vous avez eu l'idée d'ouvrir un Ripper Café à La Chaux-de-Fonds. Un Ripper Café, qu'est-ce que c'est ?
C'est un lieu de rencontre où des bénévoles, c'est-à-dire des personnes qui travaillent gratuitement, aident les gens à réparer des objets en mauvais état.
Et comment cette aventure a-t-elle commencé ?
Le Ripper Café est une initiative de Martine Postma. C'est aux Pays-Bas qu'elle a organisé le tout premier Ripper Café en octobre 2009. Le projet a tout de suite eu du succès. Actuellement, il y a quelques 1500 cafés de ce genre dans le monde. En Europe, en Amérique et même en Asie.
Et en Suisse.
Tout à fait. Il en existe une quinzaine actuellement, ce qui est très encourageant.
Comment expliquez-vous ce succès ?
Il y a plusieurs raisons. La plus importante, à mon avis, les personnes qui se rencontrent dans ces cafés sont conscientes qu'il ne faut pas jeter tout ce qui n'est plus en bon état. Elles produisent donc moins de déchets, ce qui montre un état d'esprit écologique.
Y a-t-il d'autres raisons ?
Oui, il y a aussi le plaisir de passer ensemble un moment de détente. Pendant que les gens attendent, ils discutent, boivent un thé ou dégustent une pâtisserie. Il y a aussi ceux qui n'ont rien apporté, mais qui sont là pour aider les autres à réparer un objet. C'est tellement sympathique.
Mais plus concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?
Les gens apportent des objets en mauvais état pour les faire réparer. Mais comme ils n'ont pas l'habitude de ce genre de travail, ils sont aidés par des experts qui sont heureux de faire profiter les autres de leurs compétences.
Quels objets les gens apportent-ils ?
Par exemple, des vêtements, des aspirateurs, des jouets, de la vaisselle.
Combien d'objets peuvent être vraiment réparés ?
En moyenne, les participants arrivent à réparer près de 2/3 des objets en mauvais état. Même si le succès n'est pas toujours garanti, l'important, c'est d'essayer.
Madame Thiémard, merci pour ces informations.
Complétez vos réponses.
Fin de l'examen de compréhension auditive.